Chapitre 19. Jules Bunel fut correct. Il écrivit à son fils dès le lendemain. « Mon cher fils, la présente est pour te rassurer au cas où tu serais inquiet. Je me porte bien. J'espère que tu es de même et qu'on continuera à être content de toi dans ta place. Tes élèves chantent mal, mais cela peut s'améliorer si tu te donnes un peu de peine. » Avant d'aller te voir, j'avais passé quelque temps chez Martin Coquart pour une cure d'air et afin de récupérer ma santé que la vie trop casanière avait affaiblie. Mais Martin Coquart n'est plus ce qu'il était. Il n'y a rien à faire avec lui. Je me suis dévouée pour lui et je n'ai trouvé qu'un vil lâcheur. Voilà ce que c'est que les amis. Pendant ces 4 années d'absence, je lui ai gardé mon amitié. Je vais le voir, il me met à la porte dès qu'il ose. C'est dur. « Mon cher fils, j'ai bien dormi chez toi, mais tu n'aurais pas dû fermer la porte à clé. Cela m'a mis dans l'obligation de dévisser ta serrure. Heureusement, j'ai toujours un tournevis sur moi, avec d'autres petits objets utiles quand on voyage. Je vais faire une tournée et chercher de l'occupation, de préférence comme monteur de boîte or. Il est possible que je me remarie. » Et alors, mon cher fils, tu ne seras plus orphelin, car je pourrais t'offrir un foyer et toutes les douceurs de la vie domestique si tu continues à bien te conduire. J'ai eu de grands revers. D'autres, à ma place, se décourageraient, mais je n'oublie pas que je suis un homme et ton père affectionné, Jules Brunel. Postscriptum, je t'ai emprunté quelques francs en partant. Je te rendrai ça à l'occasion. » Si vous croyez que je vais vous voir perdre l'appétit sans me mettre en peine, vous vous trompez, voilà tout, dit Madame Christelin à Donna 2 ou 3 jours plus tard. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce n'est point mon neveu, par hasard, qui vous aurait brouillé l'estomac avec ses idées sociales? Vous est-il survenu un ennui avec vos gamins, avec les parents? Donna s'était imaginé que, par son silence, il dissimulait l'état d'abattement et de dégoût où l'avait laissé la visite de son père. Il fronça les sourcils, il serra les lèvres plus étroitement, mais le regard de cette femme, si intensément maternelle, était semblable à un chaud rayon qui ouvre par persuasion douce le bourgeon fermé. Peu à peu, son cœur se gonfla comme celui d'un enfant, se fondit, éclata. « J'ai eu la visite de mon père, » fit Donna d'une voix mal assurée. « Il a troublé ma classe, il avait bu. » Les enfants en ont porté la nouvelle partout. Ce matin, M. Junet a passé. Il a cru devoir me dire qu'on espérait bien que cet incident ne se renouvellerait pas. Donna se tut. Il brûlait en lui-même du désir de s'en aller bien loin, au bout du monde, de se perdre dans les multitudes inconnues. Mourir, oui, mourir, c'est ce qu'il faudrait quand la vie commence si mal. Madame Christelin, presque aussi triste que lui et ne sachant quelle consolation trouver tout de suite, regardait autour d'elle, dans la vaste chambre bien ordonnée, paisible, image de sa belle vie honorable qu'abritait le respect et l'amour de son mari. Et elle voyait par-delà, dans les remous du monde, des vies tourmentées et sans repos. Elle avait fait entrer Donna, après le dîner, dans cette pièce où l'on était tranquille, où les géraniums et l'héliotrope fleurissaient dans l'embrasure ensoleillée, où les calmes boiseries peintes en gris et les étagères de bois et le vaste canapé et les vieilles chaises ne s'embarrassaient d'aucun ornement, d'aucun bibelot, d'aucune de ces petites laideurs compliquées qui fatiguent les yeux et l'esprit. Les rideaux de mousseline blanche étaient tout unis et le poêle à cattelle verte était frais à l'œil par ce jour d'été. Madame Christelin s'était assise sur le canapé couvert de coutils gris à raies brunes. Au-dessus d'elle, sur la paroi, il y avait une vieille gravure allemande naïve dans un cadre de noyer poli. Et sa robe grise, d'une netteté délicieuse, avait des plis abondants et doux qui touchaient le plancher blanc comme du lait. Mais dans cette sérénité de teintes et de lignes, il y avait Madame Inès, qui n'était point identique absolument à Madame Christelin, qui vibrait, qui s'indignait, qui devenait rouge. « Ah, Junet s'est permis ! Ah, je la rangerai si je le rencontre !» s'écria-t-elle. « Ça lui sied vraiment ! Depuis qu'on l'a nommé membre local, sa maison n'est plus assez haute pour lui. Mais qu'allons-nous faire ? D'abord, n'y plus penser, » conclut-elle. Immédiatement, Donna éprouva le salutaire soulagement de ce conseil. « N'y plus penser, » répéta-t-il. « N'y plus penser du tout. À quoi bon ?» C'est ce que M. Jean-Richard m'a dit aussi. « N'y penser que lorsque c'est nécessaire. » fit Donna, qu'une conception de méthode ou de discipline calmait et intéressait toujours. « Et alors, » reprit Mme Inès, « pour n'y plus penser, il faut penser à autre chose. Allez vous promener avec Jacques, puisque c'est samedi. Ce garçon a des idées plus qu'il n'en peut porter. Il vous en passera une brassée. Et je vous conseillerai aussi d'aller demain voir vos amis en ville, ça vous changera. Jacques !» appela-t-elle en s'approchant de la fenêtre ouverte. « Je ne peux plus endurer de te voir aller et venir autour de la maison comme un chien sans maître. Voici l'instituteur qui a envie de faire une grande course. Partez sans attendre d'être plus jeune qu'à présent et racontez-vous toutes vos histoires. » Ils partirent, mais Jacques Mestral n'était pas un avaleur de kilomètres. Il aimait à flâner et le hasard des chemins sous bois ou des grands pâturages libres le menait. Il s'arrêtait souvent pour admirer la vue ou un arbre simplement. Il parlait beaucoup sans attendre les réponses de son compagnon. Tout de même, fit-il, se jetant sur le sol tiède couvert d'aiguilles sèches et fleurant la résine, tout de même, il y a une fière différence entre 18 et 20 ans. « Oui, » répondit Donna, qui venait de penser précisément la même chose. « Oui, je me sens très petit garçon à côté de vous. »« Si on se tutoyait, » proposa Jacques, « ça nous rapprocherait déjà. » Une émotion saisit Donna. Il sentit la venue de cette étrangère sainte et belle qu'on attend sans savoir dans quelle lueur du matin ou dans quel flamboiement du soir elle apparaîtra. La première amitié, celle qui demeure et qui survit. « Veux-tu ? » demanda Jacques, un peu surpris du silence. « Si tu veux, » répondit enfin Donna, le menton dans sa main, les yeux perdus dans l'horizon bleu, moutonnant, noyé d'or. « C'est une grande chose pour moi d'avoir un ami, » reprit-il presque à voix basse. « Pour moi aussi, » fit Jacques généreusement. « Oh, tu en as des centaines !»« D'abord, on n'a jamais des centaines d'amis. » « J'ai des camarades en quantité, mais on est tous du même bord, tandis que toi, je te convertirai. »« Je te convertirai !» cria-t-il se levant d'un bond. « Oui, je ferai cela avant de ne pouvoir plus rien faire. »« Je t'ouvrirai les yeux, Donna Brunel, tu verras cet avenir infini qui palpite de mystère. »« Imagines-tu seulement ce qu'est l'international, la Sainte Alliance des travailleurs, la justice ?» Tu viendras avec nous, tu nous aideras à lui ouvrir le chemin. Et alors, tes petites misères à toi, tes petites douleurs, tu les verras comme des cirons dans la poussière. Ah oui, on a besoin de se perdre soi-même, fit-il d'une voix tout à coup assourdie et en se jetant de nouveau sur la terre parmi les grosses racines noueuses qui se tordaient à fleur de sol. Ah, si l'on ne pouvait pas s'oublier entièrement! Je te ferai entendre nos prophètes. Ils nous en viennent de partout ces temps-ci, de France, de Russie. Bakounine, Kropotkine, le monde bouillonne. Le nouveau métal est en fusion. Bientôt, il coulera brûlant dans des formes extraordinaires. Explique, fit Donna, commence par le commencement. Le commencement, c'est le chaos. Nous organiserons ce chaos. Alors, avec éloquence, avec impatience, tantôt debout, tantôt étendu de tout son long sous le sapin et ses yeux brûlants tournés vers les lointains de perles où vibrait la lumière, Jacques Mestral, plein de son rêve, l'évoqua dans une flamme. Tous, les petits incidents et les grandes injustices, des querelles de journalistes, des vies données, le morne effort quotidien vers la justice et la colonne de feu qui nous guide la nuit, les allées et venues des révolutionnaires étrangers, l'espionnage et les méfiances, les théoriciens et les idéalisateurs, un peuple d'ouvriers intelligents qui cherchent aussitôt les solutions pratiques et des chimériques qui courent sans s'arrêter vers l'idéal jamais atteint, les entrevues, les réunions où mutuellement on s'illumine, les sacrifices, le fatalisme russe, l'enthousiasme plus organisateur de la race jurassienne qui veut obtenir des résultats, Toute cette effervescence, tous ces feux d'artifice sur la jeunesse douloureuse de deux ou trois pauvres ateliers coopératifs, la grande crise de naissance enfin qui a rempli toute une décade après le cataclysme de la guerre franco-allemande et qui battait alors ses palpitations les plus généreuses, Jacques essaya de tout peindre à Donna. Enfin, il se tut, n'en pouvant plus. Il essuya de la main son front mouillé. « D'autres te diront le reste. Je te prendrai avec moi demain. Nous avons arrangé une parlotte. L'un ou l'autre des grands Russes y sera. Et de nos camarades, plusieurs qui parlent bien. Ah, comme j'aime l'éloquence, moi! Cela m'enivre. Au vin, je n'y touche jamais, je n'en ai pas besoin. Est-ce que tu ne te sens pas déjà soulevé au-dessus de tes chagrins, au-dessus de toi-même ?»« Écoute, fit Donna, il ne faut pas trop attendre de moi. Je suis une nature lente et probablement médiocre. »